Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des chroniques de Jacques Sapir. Le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement européens a été accueilli le 16 septembre dernier à Bratislava par la Slovaquie. Comme nous l'avons vu, le groupe dit de Visegrad, qui est composé de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie, se consolide aujourd'hui autour d'un certain nombre de revendications communes qui permettent à ces pays de chercher à peser sur la politique européenne. L'édition que nous ouvrons aujourd'hui s'intitule « Les démocraties illibérales au centre de l'Europe ». Qu'est donc ce groupe de Visegrad ? Et comment s'est-il formé ? La crise des migrants et le référendum britannique sur la question du Brexit, comme vous le savez, ont mis en confiance les responsables politiques de ces quatre pays face aux institutions européennes. Pour faire entendre leur voix, Varsovie, Budapest, Prague et Bratislava se sont appuyés sur une opposition publique très hostile à l'immigration extra-européenne et sur les concessions accordées en février dernier au gouvernement britannique de David Cameron par rapport au traité européen. Mais il y a encore d'autres intérêts communs entre ces quatre États. Attention donc au démarrage imminent de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France. Quels sont donc les intérêts communs de ces quatre pays, de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie ? Il convient de rappeler ici que l'expression « groupe de Visegrad », elle vient en réalité des années qui ont immédiatement suivi la chute du système soviétique en Europe centrale et orientale et qui ont vu l'émergence de ces États autour de leur indépendance retrouvée et qui se sont posés évidemment la question de l'adhésion à l'Union européenne. À l'époque, le gouvernement français, mais aussi le gouvernement allemand, disait à ces pays « Vous devez, d'une certaine manière, travailler ensemble, à trois puis à quatre, quand la Tchécoslovaquie s'est scindée entre une République tchèque et une Slovaquie, et vous adhérerez à l'Union européenne en bloc. » Or, cela a été immédiatement refusé par à la fois les élites politiques, les différents partis politiques et les gouvernements de ces pays. En fait, ces pays tenaient alors aux pays d'Europe occidentale le discours suivant « Nous voulons rentrer le plus vite possible » dans l'Union européenne, nous voulons rentrer dans l'OTAN le plus vite possible et d'une certaine manière, nous ne voulons pas de cette forme d'organisation régionale qui, en fait, pourrait être un frein à notre adhésion à l'Union européenne. Mais aujourd'hui, le contexte a changé et on aboutit à un très intéressant retournement de situation alors que désormais, les pays d'Europe occidentale, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne, essayent de discuter avec chacun des pays pris séparément, ces pays ont retrouvé depuis environ 18 mois le besoin de faire bloc. Pourquoi ? Alors, une première explication tient à la condescendance, pour ne pas être plus méchant, qu'avaient envers ces pays les pays de l'ancien marché commun. C'est vrai, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas ont eu tendance à considérer ces pays de l'Europe centrale et orientale comme des pays qu'il fallait éduquer dans l'idée européenne. Ce n'étaient pas des partenaires à titre plein. Et évidemment, cette espèce de condescendance, et parfois plus, je dirais, cette espèce de mépris dans lequel ces pays étaient tenus, a eu des conséquences politiques extrêmement importantes sur les opinions public. Donc là, il y a un premier point. Il y a un deuxième point extrêmement important, c'est que si la France, l'Italie, voire l'Allemagne ont aujourd'hui, en tous les cas au niveau de leur gouvernement, une attitude très anti-souverainiste, il n'en est pas du tout de même dans ces pays d'Europe centrale et orientale. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à un Polonais, ou à un Hongrois, ou à un Tchèque, ou à un Slovaque, eh bien, abandonnez votre souveraineté, aller vers ce projet d'Europe fédérale. D'une certaine manière, ces pays sont restés fidèles à la conception de l'Europe des nations qui avait été développé au début des années 1960 par le général de Gaulle. Donc, il y a là, d'une certaine manière, un conflit entre les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe centrale et orientale, conflit qui, évidemment, est aujourd'hui démultiplié par la question des migrants ou des réfugiés, parce que l'on sait bien que ces migrants ou ces réfugiés, eh bien, ils viennent de la Turquie vers la Grèce, de la Grèce, ils remontent par la Macédoine et la Croatie, et ils arrivent aux portes de l'Europe centrale et orientale. De ce point de vue-là, il est important de constater qu'un autre pays, qui pourtant ne faisait pas partie au départ du bloc de Visegrad, la Croatie, vient, après les dernières élections, de se doter d'un gouvernement de droite, et ce gouvernement a immédiatement commencé des discussions avec les pays du groupe de Visegrad en leur disant « voilà, nous avons de nombreux points d'accord entre nous ». Même chose, l'Autriche est en train aujourd'hui de connaître une forme de basculement non négligeable. On sait qu'il faut refaire l'élection présidentielle, la précédente élection présidentielle du printemps dernier, ayant été annulée à la suite de fraudes multiples et variées. On sait d'ailleurs que ce nouveau tour de l'élection présidentielle, ou ce nouveau deuxième tour plus précisément de l'élection présidentielle autrichienne, est aujourd'hui en passe d'être retardé. Il devait avoir lieu au début du mois d'octobre. Il aura lieu en réalité entre la fin novembre et le début du mois de décembre, sous prétexte que le matériel électoral, les professions de foi ne sont pas prêtes. Nous ne développerons pas plus là-dessus. Mais on voit très bien que, d'une certaine manière, l'enjeu de cette élection, c'est de savoir est-ce que l'Autriche va basculer du côté de ces pays du groupe de Visegrad. Et aujourd'hui, alors que la Grande-Bretagne est en train de sortir de l'Union européenne, on voit se constituer en Europe centrale et orientale, mais cela peut diffuser extrêmement rapidement dans l'Union européenne, un nouveau bloc de pays qui, évidemment, va s'opposer à toute tendance supranationale, à toute tendance fédérale qui pourrait exister au sein de l'Union européenne. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous écoutez les chroniques de Jacques Sapir, une émission de Spoutnik France. Nous discutons dans cette émission des démocraties illibérales au centre de l'Europe et nous faisons le point en deuxième partie sur les relations entre les institutions européennes et le groupe dit de Visegrad, regroupant la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, eux-mêmes membres de l'Union européenne depuis 2004. Les quatre pays se sont réunis mardi 6 septembre à Krynice, dans le sud-est de la Pologne, à 10 jours du sommet européen sur la situation post-Brexit qui était prévu le 16 septembre à Bratislava. En effet, c'est à la Slovaquie, en tant que pays assurant actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, qu'il revient d'organiser ce sommet auquel il va sans dire que les quatre pays d'Europe centrale se sont très soigneusement préparés. En même temps, s'ils ont des divergences entre eux, c'est une position commune et une position très ferme sur un certain nombre de questions que les différentes capitales, Varsovie, Bratislava, Budapest et Prague, sont déterminées à afficher. Cyril Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de conférence à Sciences Po et l'un des créateurs du blog Eurasia Prospective. Ferenc Almasi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, basé en Hongrie, consultant politique et collaborateur au site d'information Visegrad Post, vous en êtes même le rédacteur en chef. Bienvenue à tous les deux dans notre émission. Alors, je vais donc commencer par une première question posée à Cyril Brett. Le sommet européen de Bratislava s'est tenu. Quelle est la position commune qui a réussi à émerger dans le groupe des pays de Visegrad?
Ce qui a cimenté les positions de ces quatre pays, c'est la détermination à faire prévaloir l'idée selon laquelle les institutions européennes se sont éloignées des peuples et se sont éloignés de l'idéal de respect des souverainetés nationales. De ce point de vue-là, par-delà les divergences ou par-delà les différences de sensibilité entre les différents pays. L'histoire des quatre États membres du groupe de Visegrad a facilité les choses, dans la mesure où ce sont des pays qui ont recouvré leur souveraineté nationale de façon récente, et on peut compter sur eux désormais pour remplacer, si j'ose dire, le Royaume-Uni comme avocat à l'intérieur de l'Union européenne du respect des souverainetés nationales. L'accent, par exemple, qui est mis tout particulièrement par le groupe de Bratislava sur la prépondérance du Conseil, sur la Commission, le rôle que doit remplir, les rôles, pardon, que doit remplir l'exécutif ou l'embryon d'exécutif européen par rapport aux institutions non démocratiques de Bruxelles est à cet égard très illustratif des attentes du groupe de Visegrad, de sorte que dans la préparation du sommet de Bratislava, on peut compter sur ce groupe, de même qu'on a pu voir émerger d'autres positions communes dans d'autres régions, notamment méditerranéennes, pour porter la voix de la souveraineté nationale à Bruxelles et dans la grande renégociation qui s'annonce après le Brexit.
Ferenc Almassi, est-ce que vous partagez cette opinion ?
Oui, ce qui est très juste, c'est de parler du rôle nouveau du groupe de Visegrad depuis le Brexit. Il est important de souligner que les pays du groupe de Visegrad étaient contre le Brexit, espéraient du moins que le Royaume-Uni resterait dans l'Union européenne. Ça leur permettait de faire tenaille sur l'axe franco-germanique qui, on l'a vu à l'annonce du Brexit, a tout de suite mis sur la table les projets de fédéralisation. Ce contre quoi le groupe de Visegrad s'est mobilisé une fois de plus. Petit rappel, le groupe de Visegrad a été créé il y a un peu plus de 25 ans, mais pendant très longtemps c'était simplement un groupe de dialogue en réalité, et qui avait pour but de favoriser l'intégration de ces pays dans l'espace communautaire européen, enfin dans l'Union européenne ensuite, l'OTAN aussi. Mais l'année dernière, le groupe de Visegrad a été utilisé pour la première fois comme un véritable outil politique régional lors de la crise des migrants. Et avec le Brexit et avec les projets franco-allemands de fédéralisation de l'Union européenne, le groupe de Visegrad a une raison de plus de se souder. Et c'est très important, oui, de souligner que aujourd'hui, les pays du groupe de Visegrad, leurs dirigeants qui sont des conservateurs, quelle que soit leur étiquette, ils le sont de facto, qui sont des conservateurs qui croient tout de même dans un projet européen, qui espèrent une Europe fonctionnelle, ne veulent pas laisser tomber l'Union européenne trop rapidement, ne refusent de baisser les bras et essayent d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire pour aller vers une Europe que eux appellent de leur vœu et qui était l'Europe les peuples d'Europe centrale ont voulu rejoindre, qui est une Europe des nations.
Cyril Maret.
Je pense que ce qu'il est très important de préciser, c'est que ce groupe de Visegrad, qui est ordinairement présenté comme une organisation concurrente en Europe ou un lobby des anciens pays de l'Est ou ceux qu'on appelle encore plus de 10 ans après les NEM, les nouveaux États membres, qui ne sont plus du tout des nouveaux États membres, je pense qu'il faut bien souligner, et Ferenc vient de le faire, le fait que, quelle que soit la couleur politique des gouvernements qui succèdent à la tête de ces différents pays, ils ne peuvent pas être présentés tout uniment comme anti-européens. Ce sont quatre pays qui ont fortement bénéficié, en tout cas en ce qui concerne la Pologne et la Tchéquie, qui ont fortement bénéficié de l'intégration européenne, et dans lequel l'euroscepticisme ne peut pas du tout être comparé à celui qui a présidé au Brexit, ou qui peut s'exprimer dans certains partis ouvertement anti-européens à l'échelon du continent. C'est vraiment à l'intérieur même de la construction européenne, une organisation régionale, non concurrente de l'Union européenne, mais qui a pour but de porter un certain nombre de thèmes dans le débat public bruxellois.
Alors, le point important, si vous voulez, je me permets d'intervenir dans votre discussion, on se souvient que quand le groupe de Visegrad a été créé, à cette époque-là, et d'une certaine manière, j'étais, en tant qu'expert économique, impliqué dans les discussions, les Français, les Allemands, voire même les Britanniques, disaient à ces pays-là, vous devez constituer un groupe et, d'une certaine manière, adhérer à l'Union européenne en bloc. Et ce que l'on entendait dans les différentes capitales, hein, que ce soit à Varsovie, à Bratislava, à Budapest, à Prague. C'était au contraire le discours, non, nous voulons rentrer chacun le plus vite possible en Europe, et s'il y a une concurrence entre nous pour qui rentrera le premier, eh ben ce n'est pas un problème, nous ne voulons pas faire bloc, et d'une certaine manière, les gens de ces pays reprochaient aux pays d'Europe occidentale de vouloir les pousser à constituer un bloc. Ferenc Almásy.
Et bon, les générations passent. En 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de changements, notamment au niveau européen, aussi de changements même géopolitiques. Hein. Le groupe de Visegrad, aujourd'hui, a compris, je pense sincèrement, pour avoir discuté avec des parlementaires de tous ces pays-là, qu'il y a une réelle opportunité historique pour l'Europe centrale, mais uniquement si elle collabore de façon macro-régionale. Il y a une véritable possibilité pour avoir une influence propre, ce qui serait la première fois depuis très longtemps pour bon nombre de pays d'Europe centrale. C'est des pays qui se sont retrouvés au XXe siècle, XIXe et XXe siècle, en permanence dans une situation de satellite par rapport aux grandes puissances, que ce soit l'Empire d'Autriche, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Russie, puis l'Union soviétique. Donc, c'est des pays qui veulent reconquérir leur souveraineté, leur indépendance. C'est aussi pour ça, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est aussi pour ça que ce sont des pays qui s'attachent autant à ces thématiques et qui les défendent bec et ongles à l'heure où, en Europe occidentale, on brade ce qui reste de souveraineté. Et dans une époque où, je pense, certains projets occidentalistes sont en train de péricliter, le fait de défendre des positions justement de souveraineté notamment, ça a le vent en poupe, tout simplement. Et quelqu'un comme Orban, par exemple, je pense, l'a très bien compris. Pour rappel, il y a un an et demi, avant que la crise migratoire commence, au printemps 2015, Orban était dans une position assez désagréable en Hongrie, due à toutes sortes d'affaires de corruption, à des tentatives de déséquilibre aussi, de déséquilibrage de la part d'ONG, et la crise des migrants lui a permis de se dégager un peu de ces questions politiques intérieures et de se donner une dimension internationale, ouvrant la voie à toute l'Europe centrale à une nouvelle influence. Ils ont compris qu'ils étaient les porteurs d'étendard d'une Europe alternative, qu'ils étaient capables de toucher des adversaires politiques, adversaires, c'est peut-être un peu fort, mais de toucher des personnes comme Merkel, par exemple, de l'intérieur, c'est-à-dire en gagnant en sympathie et en faisant porter leur message au sein de la population allemande. C'est quelque chose, je crois, qui était inimaginable depuis de très très longtemps. Et ça, c'est un fait très important, je pense.
On a beaucoup parlé, justement, de cette unité du groupe de Visegrád. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, des thèmes sur lesquels ils ont tendance à se diviser?
Alors, oui, parce que par-delà le point de vue un peu lointain qui les constitue en monolithe, évidemment, ce sont des États et des économies qui sont dans des positions très différentes dans le cycle. Hein. La prospérité polonaise contraste très très fortement avec les difficultés de l'économie hongroise, par exemple, et les points sur lesquels comment ils se divisent, ont des approches un peu différentes, concernent aussi bien l'économie que les relations, par exemple, avec l'étranger russe, hein, tout simplement. Exactement comme vous l'avez souligné, il y a eu un renversement de front, exactement. Ces pays ont des diplomaties qui ont leur autonomie, et les différents rapprochements qu'on exagère assez souvent avec la Russie, ou l'alignement ou les protestations à l'égard de l'Allemagne, constituent de ce point de vue-là sans doute un ferment de division entre ces différents pays. Je voudrais juste revenir sur l'idée du renversement des fronts. Je pense que aussi bien dans l'élaboration des positions communes que dans la défense d'intérêts nationaux qui ne sont pas forcément compatibles les uns entre eux, c'est en ce moment ce qui se consacre, c'est sans doute la fin de l'ère de la condescendance de la part des Occidentaux, du couple franco-allemand, qui se rendent compte, effectivement, Ferenc l'a très bien dit, vous l'avez bien évoqué, qui se rendent compte que ces pays existent, ces pays comptent, ces pays ont soit un poids politique quand il s'agit d'Orban, soit un poids économique quand il s'agit de la Pologne, et maintenant un poids institutionnel interne à Bruxelles avec Tusk et les Polonais qui sont très puissants maintenant à Bruxelles. Et du côté des pays de l'ancienne Est de l'Europe, bien au-delà d'ailleurs du groupe de Visegrad, c'est la fin de l'ère des complexes. Ces pays s'associent selon des configurations qui sont variables pour défendre leurs intérêts au sein des institutions européennes. Et c'est une position qui est bien différente de celle d'un euroscepticisme ou d'un anti-européisme, puisque c'était à l'intérieur même des sommets, à l'intérieur même de ces institutions qu'ils portent la voix des nations et qu'ils portent la voix de la souveraineté. Et d'une certaine façon, plus rien ne sera comme avant, à mon avis, après la montée en puissance de ce groupe de Bratislava.
Alors, Ferenc Almásy, est-ce que vous partagez ce type d'analyse ?
Aujourd'hui, c'est plus délicat. Quelles sont les motivations de la Pologne à s'investir plus dans l'OTAN? Il y a d'abord une chose que je voudrais souligner là-dessus, c'est que même en Pologne, au sein du PiS, donc le parti dirigeant en Pologne, il y a des divisions sur la question de la relation aux États-Unis, de la relation à l'Allemagne et de la relation à la Russie. Tout le monde n'est pas anti-russe en Pologne, ça serait caricaturer les choses. Il y a une génération qui change en politique. Il y a beaucoup de jeunes qui voient d'un œil beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins belliqueux la Russie. Maintenant, il y a aussi des voix qui disent en Europe centrale que la motivation de la Pologne de s'investir dans l'OTAN, mais aussi de la Slovaquie d'augmenter son budget, et la constitution par le groupe de Visegrad depuis le 1er janvier 2016 d'un groupe d'opération du groupe de Visegrad, donc une force opérationnelle propre aux quatre pays du Visegrad. Tous ces éléments amènent certaines personnes à dire, dans divers cercles centro-européens, que l'Europe centrale en fait prévoit sur le moyen et le long terme d'utiliser l'OTAN pour se renforcer afin d'envisager tôt ou tard une scission de l'OTAN en fonction de l'évolution géopolitique. L'élection de Trump peut avoir un rôle là-dedans, le comportement de la Russie dans un sens ou dans l'autre peut avoir un rôle aussi là-dedans, le comportement de l'Union européenne par rapport au groupe de Visegrad aussi, c'est une question très importante, puisque je finirai là-dessus, on sait déjà en Hongrie que pour le prochain cycle d'aides européennes, il y aura une réduction drastique, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de punition de la part de l'Union européenne pour les positions prises par la Hongrie, mais aussi par les autres pays du groupe de Visegrad. Ceci peut jouer beaucoup, ça peut beaucoup peser dans la balance, puisque il y a un certain nombre, comme dans beaucoup de pays post-communistes, il y a toujours encore dans certains cercles de pouvoir des oligarques qui en fait sont très pro-européens du fait de leurs intérêts financiers. Si l'Union européenne signifie moins une aubaine économique, ça peut renforcer beaucoup de sentiments anti-européens et ça peut faire basculer pas mal de choses.
Écoutez, Cyril Brett, Ferenc Almásy, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Pour vos interventions. C'était extrêmement éclairant le débat que nous avons eu sur justement ce groupe de Visegrad. Chers auditrices et chers auditeurs, nous ne pouvons malheureusement pas nous étendre davantage sur cette question, mais notre émission continue. Restez à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir et de notre édition « Démocratie libérale au centre de l'Europe ». Je vous remercie tous.
Je m'appelle Pierre-Henri Paulet, je suis juriste en droit public, je suis l'auteur d'une thèse consacrée à l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme en Pologne. Alors pour l'instant, il faut bien admettre que la Pologne joue la montre, c'est-à-dire que la première réforme constitutionnelle qui s'est tenue en décembre 2015, hein, c'est la loi du 22 décembre 2015, était effectivement dramatique, hein, pour le tribunal constitutionnel qui se trouvait complètement paralysé. Et placé sous la dépendance en plus du Parlement. Le gouvernement polonais a mis un petit peu d'eau dans son vin puisqu'une nouvelle loi réformant le tribunal constitutionnel a été adoptée le 27 juillet. Donc c'est tout nouveau, mais dans sa recommandation du 27 juillet 2016, la Commission européenne, qui a eu vent de cette nouvelle réforme, n'a pas été particulièrement convaincue, même si elle note des avancées. Alors, je crois que le gouvernement va continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire à faire des petites concessions, petit à petit, jusqu'à pouvoir calmer suffisamment le jeu et éviter l'enclenchement de l'article 7 de la Commission. Clairement, on a beaucoup comparé la situation en Pologne avec la situation hongroise depuis l'ère Orban. Il y a évidemment l'inspiration de Orban. D'ailleurs, Jarosław Kaczyński, qui est le président du parti PiS au pouvoir en Pologne, avait rencontré Viktor Orban au printemps et tous les deux avaient échangé justement pour savoir comment tenir tête à l'Union européenne sans risquer la sanction. Donc, si vous voulez, ils sont sur une ligne de crête pour le moment. Mais il faut bien comprendre que la Pologne n'a pas du tout envie de se retrouver au bord de l'Union européenne pour autant.
Chères auditrices et chers auditeurs, notre temps d'antenne s'achève. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir et de notre édition « Les démocraties illibérales au centre de l'Europe ». Le dernier sommet des chefs d'État européens, qui s'est tenu le 16 septembre dernier à Bratislava, a clairement confirmé l'influence des pays du groupe de Visegrad. Aussi bien les thématiques abordées, qui étaient presque exclusivement sécuritaires, que les réponses envisagées, toujours plus de contrôle aux frontières européennes, ont été une validation et une consécration pour ces quatre capitales conservatrices de l'Europe centrale. Le dirigeant italien, M. Matteo Renzi, faute d'avoir été écouté, s'est plaint d'une occasion perdue. À la veille du référendum, qui pourrait le voir céder le pouvoir en Italie, et alors que son pays est en première ligne sur le front migratoire, on comprend sa déception. Les Italiens, les Français, les Allemands, au fond, sont habitués à ce que chacun de leurs dirigeants politiques participe aux événements européens tout en prêchant pour sa paroisse électorale nationale. Les pays d'Europe centrale, de toute évidence, ont bien compris l'exercice et ils ont suivi l'exemple. Je remercie Clément Détry à la rédaction, Mourad Azri au montage et à l'habillage, et Marc-Laurent Turpin à la réalisation. À la semaine prochaine sur Sputnik France.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.